souhaitons la bienvenue au chariot blanc et à l'énergie de Michael.
Bienvenue à vous-même et à l'Assemblée.
Nous souhaitons justement vous faire part que le sujet de ce soir, c'est la communication homme-femme. Est-ce que vous avez un
commentaire? Cette communication est-elle possible? Nous nous amusons un peu. L'énergie est un peu sérieuse dans cette pièce.
Est-ce que vous avez un commentaire d'ouverture?
Au lieu d'un commentaire d'ouverture, nous allons plutôt décider de vous donner un enseignement général sur ce sujet que vous avez choisi vous-même, de la communication entre le féminin et le masculin, ou l'homme et la femme, ainsi que vous le dites. Afin de rendre cet enseignement plus clair, nous allons prendre le temps de faire brièvement l'historique de la venue de cet homme et de cette femme sur le plan terrestre. Car il faut bien avoir un peu parcouru, nous dirions, cette petite carte géographique pour savoir dans quel pays nous allons. Le pays de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le pays de ces deux entités séparées qui se cherchent. Alors, nous prenons un peu de temps pour faire l'historique. Ceci sera très abrégé puisque nous pourrions parler de ceci pendant plusieurs jours. Il faut d'abord vous rappeler que lorsque le Père a décidé de la création et qu'il a propulsé à l'extérieur de lui le génie de sa pensée afin que cette création puisse exister, l'être humain n'est pas apparu comme sur un écran de télévision. Non point. Il a dû d'abord se fondre à la matière qui, elle, en premier lieu, avait été propulsée dans l'espace. Ce n'est qu'au cours de milliards d'années que cette progression se fait, c'est-à-dire la progression de cette création. Il faut que vous sachiez également que le plan terrestre dans la création du Père, et nous pouvons parler de ce système solaire et de cette planète Terre, mais nous pourrions également parler de plusieurs autres systèmes solaires avec plusieurs autres planètes et des races différentes. Mais nous nous centrerons sur le sujet que vous avez demandé. Alors, voici que lorsque le système solaire dans lequel se retrouve la planète Terre a été engendré ou s'est manifesté à travers cette immense création, nous dirons que d'abord, l'être humain est apparu sous une forme qui n'était presque pas une forme. Tant nous dirions la matière de cette forme était malléable. Cependant, nous pouvons dire pour votre compréhension que cette forme avait une forme ovale très grande, si grande qu'elle ne serait pas entrée dans cette pièce à cause de la hauteur de ces formes. Et ces formes, nous vous dirons, se bougeaient dans l'atmosphère, étaient des masses de matière ayant peu de, nous dirons, ayant peu de consistance, si vous voulez. Progressivement, à travers les millénaires, ces formes sont devenues plus massives et ont commencé à développer, nous dirons, des formes extérieures à elles. Dans le début, il y a d'abord eu au sommet de cet œuf comme une sorte de tige qui était extraite ou qui sortait de cette masse pour pouvoir se diriger dans l'espace. Et cette masse était ce qui est aujourd'hui la glande pinéale. Ensuite, nous vous dirons que cette glande pinéale, s'est transformé et est venu à l'arrière du crâne comme un œil que vous appelez aujourd'hui le troisième œil et que vous visualisez au milieu du front. Il y avait également dans cette masse deux autres yeux, mais qui étaient au sommet de la tête et qui n'avaient possibilité que de regarder vers le haut. De sorte que ces masses, que vous pouvez appeler masses humaines, ne se percevaient pas. De plus, ces masses n'avaient pas d'autre sens que le sens du mouvement et celui de pouvoir percevoir à distance l'ennemi. Ensuite, progressivement, cette masse humaine s'est développée. Dans, nous dirions, la race suivante, qui est créée de millénaire en millénaire, la race suivante a commencé à développer d'autres sens et a développé, nous dirons, à la fois toute l'énergie de l'émotion et ensuite l'énergie du mental. Lorsque l'être a commencé à développer ses capacités mentales et ses capacités d'émotion, les formes devenaient différentes. Et ces formes n'étaient pas, nous dirons, des êtres sexués à votre façon. C'était des êtres qui avaient la capacité de s'auto-féconder pour pouvoir donner naissance à d'autres masses semblables à eux-mêmes. Alors, nous vous dirons, ensuite, lorsque les émotions sont venues, les émotions de colère, de haine et de défense de territoire sont venues parmi les races humaines. Les premières races, nous dirons, qui avaient la connaissance et qui avaient les yeux qui s'étaient déplacés au-devant de la figure et, nous dirons, l'œil qui était au verso de la tête s'est enfoncé à l'intérieur de la tête et vous pouvez encore le considérer comme présent, soit par la glande pinéale ou soit par le fait des fontanelles. La première race qui était la race des Lémuriens était une race très peu développée au niveau intellectuel, mais avait suffisamment de connaissances pour pouvoir, nous dirons, sentir l'ennemi et pouvoir avoir certaines stratégies. Il faut dire qu'alors que le plan terrestre n'était pas très évolué et qu'il n'y avait pas la terre ferme comme actuellement, mais plutôt l'air et l'ambiance très chaude à cause de ce soleil qui était encore près de cette planète. Alors ces êtres vivaient dans cet état. Cette race de Lémuriens s'est progressivement développée pour donner naissance plusieurs milliards d'années suivantes à une autre race que vous appellerez la race des Atlantéens ou du temps de l'Atlantide. Alors le cerveau se développant davantage et au début le cerveau était situé au niveau du plexus solaire et non point dans la tête. Ce n'est que progressivement que le cerveau de la tête s'est développé et que les êtres ont commencé à se percevoir. Étant donné que les yeux étaient dans la figure, ils pouvaient alors se voir. Et c'est dans votre histoire que vous avez appris, où vous avez parlé de ces êtres, Adam et Ève, qui tout à coup s'étaient reconnus dans leur nudité comme étant séparés. C'est à ce moment que cette masse humaine s'est comme subdivisée en féminin et en masculin, car jusque-là, l'être humain s'auto-fécondait lui-même. Mais à mesure qu'il y avait descente dans la matière ou involution dans la matière, l'être se raffinait de plus en plus. Dans les débuts, il avait les pieds très longs, mais les pieds étaient aussi longs à l'arrière qu'à l'avant, pour leur permettre de pouvoir se déplacer autant par l'arrière que par l'avant et pouvoir fuir l'ennemi. Progressivement, les humains ont constaté qu'ils ne pouvaient plus s'auto-féconder. Alors, ils ont trouvé ou découvert l'être qui était placé devant eux, possédant, nous dirons, une formation de corps physique différent. C'est alors qu'est apparue toute la question de la génitalité. Et il était important, et vous devez considérer que tout ce cheminement évolutif, chacune des phases de ce cheminement évolutif est nécessaire, et ce plan qui est tracé par le divin est un plan parfait, quoi que vous puissiez juger qu'il y a des imperfections avec, nous dirions, le regard que vous portez sur ce plan. Alors, les êtres humains ont commencé la procréation afin de pouvoir, en toute sagesse, peupler plus rapidement le plan terrestre, développer l'intelligence. Et au fur et à mesure, nous dirons, les races ont évolué. Et si vous continuez toujours à travers ces races multiples dans lesquelles vous descendez, vous arrivez à la race dans laquelle vous êtes vous-même, qui est la race aryenne. Et nous vous dirons que cette race est beaucoup plus évoluée au niveau du cerveau. Le corps humain a subi de très grandes transformations. Pour en venir à, nous dirons, au temps présent, vous retrouvez dans vos sociétés contemporaines des hommes et des femmes. Les hommes ont, nous dirons, des attitudes et des comportements différents. Ils sont avec une énergie différente, qui est une énergie que vous appellerez une énergie de décision, ou une énergie de pouvoir, ou de plus grande force physique. Vous avez la femme qui, à côté de cet homme, a une énergie très différente, qui est une énergie, nous dirons, plus subtile, plus intuitive, plus créatrice. Au moment de cette division, c'est-à-dire au moment de la connaissance, et si vous retournez dans les écrits bibliques, il est dit que l'homme et la femme ont mangé le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Ce qui a été appelé le bien et le mal, c'était la division ou la dualité. Et nous vous dirons que ce qui crée la plus grande difficulté au niveau de la communication entre les hommes et les femmes est précisément cette dualité. Opposer la force et la faiblesse, opposer la raison et l'intuition, opposer le bien et le mal. Et toutes ces oppositions créent la dualité. Cette dualité, elle n'existe pas uniquement entre l'homme et la femme, mais elle existe bien à l'intérieur même de l'être humain, qui possède totalement et le féminin et le masculin à l'intérieur de lui. Dans cette descente dans la matière, dans, nous dirons, ce mouvement d'involution, de pénétration de la matière, il y a eu bien sûr toutes ces couches que vous avez dû traverser. Mais voici qu'au moment présent où vous êtes rendu, se passent des événements très importants au niveau énergétique qui viennent créer de grandes transformations. Transformation au niveau du cerveau, transformation au niveau du chakra du cœur, transformation de la joue de d'autres centrales énergétiques ou de d'autres chakras dans le corps physique. Et nous vous dirons qu'à ce moment, c'est comme si la conscience de l'humain commence à être si grande que ce mouvement d'involution est en train de se transformer en mouvement d'évolution, afin que vous puissiez ensuite monter vers la cinquième, sixième et septième race. Et la septième race, c'est la race des dieux. Et c'est vers ce chemin que vous allez. Mais nous vous dirons, pour atteindre cette race des dieux, Il faut que vous compreniez que vous avez à faire à l'intérieur de vous l'unité entre le féminin et le masculin. Et ce dialogue du féminin et du masculin, il doit se faire d'abord de l'intérieur pour bien être compris de l'extérieur. Et l'extérieur, bien sûr, vient aider à la compréhension de ce qui se passe, de cette transformation à l'intérieur de l'être humain. Actuellement, au niveau, par exemple, de la sexualité, vous pouvez percevoir sur votre globe terrestre que la population est devenue si dense que les chercheurs et les êtres humains se questionnent et se demandent si la multiplication des êtres humains continue, comment le globe terrestre pourra supporter toute cette race. C'est pourquoi il y a transformation au niveau de la pensée et de toute la question sur la sexualité. C'est-à-dire, il y a déjà des pays où les hommes et les femmes décident d'avoir des familles moins nombreuses. Il y a des êtres qui décident de vivre davantage dans la solitude et de retourner vers le centre d'eux-mêmes afin de trouver l'unité non point à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, nous vous dirons, c'est dans ce mouvement de transformation actuelle qui est presque l'état apocalyptique de ce grand renversement qui a déjà été prédit par d'autres médiums. Mais ce renversement est créé et voulu afin que le mouvement d'évolution se transforme en mouvement d'évolution. Alors la race humaine a commencé par être une race qui s'auto-fécondait et nous vous dirons que dans la septième race, il n'y aura plus besoin de fécondation entre l'homme et la femme pour que naissent les êtres humains. Nous savons que ces enseignements sont très larges et pourraient porter beaucoup plus de détails et vous donner des éléments plus concrets. Mais nous croyons que pour bien répondre à cette assemblée présente, nous allons d'abord répondre aux questions qui sont posées plus directement par vous. Si ensuite vous jugez que l'enseignement que nous avons donné est incomplet ou suggère des questions, vous pourrez les poser. Alors, nous serions prêts pour les questions des recteurs.
D'accord. Alors, une première question est, lorsque nous parlons de Dieu le Père, pourquoi ne parlons-nous pas aussi de Dieu la Mère? Je crois que cela a contribué à créer des divisions entre l'homme et la femme.
Tout a contribué à créer la division de l'homme et de la femme, car sachez bien que ce n'est pas Dieu qui s'est nommé lui-même le Père. Dieu, il a dit de lui-même, « Je suis celui qui est », et il n'a pas ajouté de commentaire qu'il était le Père. C'est progressivement, nous dirons, dans ce mouvement d'évolution, où l'homme avait d'abord la priorité sur la femme. Si vous regardez quelques siècles en arrière, et même quelques années en arrière, et peut-être parmi vous quelques mois en arrière, l'homme avait la priorité et le pouvoir sur la femme. Mais la femme donnait ce pouvoir à l'homme. L'homme doit comprendre qu'il n'a qu'à avoir le pouvoir sur lui-même et la femme à reconquérir son propre pouvoir. Et c'est dans le langage courant que ceux, par exemple, qui étaient à la tête des associations, des sectes ou des églises, et qui étaient tous de genre masculin, ont bien sûr dit que celui qui était Dieu portait le nom de Père, parce que ceci devait entrer dans le sens du pouvoir. Mais vous pouvez décider que Dieu n'est pas le Père, mais qu'il est le Père-Mère. Et il est le Père-Mère. Il contient cette double énergie du yin et du yang. Il ne peut pas avoir engendrer une création dont une partie aurait été absente de lui. Alors Dieu est à la fois Père et Mère. Bien sûr, ceci a contribué à la division, mais nous ajoutons que tout ce mouvement d'involution, quoi qu'il vous paraisse imparfait, devait se roder peu à peu dans sa descente vers le plan terrestre, afin qu'ensuite, dans la compréhension de l'expérimentation, le mouvement opposé puisse se créer. Alors, même si ceci a contribué à créer la division, cette division était nécessaire pour que vous compreniez l'unité.
Merci.
Bienvenue.
Autre question. Comment arriver à établir un dialogue et une communication avec un homme qui ne veut pas parler de son intérieur, qui reste toujours sur la défensive et qui se croit attaqué?
Ceci est une question un peu personnelle, mais nous vous dirons qu'elle peut rejoindre beaucoup de gens au niveau général. D'abord, dites-vous bien que dans l'état est probablement que la personne qui a posé cette question est une personne qui a contracté ce que vous appelez l'état de mariage avec un contrat, car les humains se sont créés des petites structures pour bien s'enfermer et avoir l'impression qu'ils n'allaient pas se perdre. Mais ils se sont perdus dans les structures, car toutes ces structures mises une à côté de l'autre qu'ils ont essayé de défoncer sont devenues des formes de labyrinthe. Et l'homme court dans les labyrinthes qu'il a créés lui-même, et il tourne en rond dans les prisons et les tours qu'il a bâties lui-même. Alors, nous vous dirons que cette personne qui a posé la question est probablement une personne engagée dans ce lien du mariage. Très souvent, pour les êtres qui sont sur le plan terrestre actuellement, les premiers, nous dirions, les premières unions que vous appelez par le mariage sont souvent des unions qui ont trait à des liens karmiques. Alors, il est possible que cette femme qui a posé cette question au sujet du conjoint qui est muet et qui ne veut pas l'entendre soit face à un karma qu'elle a réglé avec cet homme. Peut-être bien que dans une autre vie, elle lui a cousu le bec et que alors, dans cette vie présente, il ne veut pas ouvrir son bec pour qu'elle comprenne qu'elle n'a pas ceci à faire à nouveau. Et nous vous dirons, à cette question que vous posez, nous allons donner une réponse fondamentale. Vous n'avez pas à convaincre un homme à l'extérieur de vous qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela, qu'il doit se transformer, qu'il doit évoluer, qu'il doit avancer. Il n'y a qu'une seule personne que vous avez à convaincre, et c'est vous-même. Et si cette personne ne vous suit pas sur votre chemin, continuez d'avancer sur votre chemin, et elle prendra le sien.
C'est possible de parler brièvement, cependant, concernant, on dit qu'il y a des millénaires que la femme est bafouée par l'homme. Alors, toute cette haine de l'homme envers la femme provient-elle de l'histoire d'Adam et Ève que vous avez parlé au tout début, enseignée par les religions, où Ève a été comme la grande responsable de tous les maux de l'humanité?
Dans cette question est sûrement posée par une femme. Car dans cette question, il y a de l'animosité contre l'homme. Mais nous disons à cette femme et à toutes les femmes qui sont dans cette pièce, vous avez déjà été, vous également, des hommes. Vous avez déjà été dans d'autres vies, dans le pouvoir. Alors, si vous accusez l'homme qui est à l'extérieur de vous, vous accusez une partie de vous-même. Et cette histoire d'Adam et Ève, elle est une histoire symbolique comme nous pourrions vous raconter une légende et que cette légende soit symbolique, car Adam et Ève n'ont pas véritablement existé tel que vous l'avez appris dans vos religions. Vous aviez dans vos petits catéchismes l'image d'un homme et d'une femme tel que vous êtes construits, alors que ceci était au temps de la lignerie et qu'il y avait des formes encore très imparfaites, et que si vous les voyez aujourd'hui, vous diriez « ceci sont des monstres » et vous êtes issus de ces monstres. Et si le masculin, c'est-à-dire le pouvoir yang, dans l'énergie, ce pouvoir yang a écrasé le pouvoir yin, c'est parce que il fallait que le mental se développe de façon très importante dans cette descente, parce qu'il fallait que l'être humain apprenne la science de son propre corps, comprendre comment était fait la nature. Alors il avait besoin de ce pouvoir mental qui était fixé au niveau de son plexus solaire. Et ce pouvoir mental est le pouvoir masculin. Et ceci fait partie tout simplement d'une évolution. Alors, lorsque vous dressez les hommes contre les femmes avec des communautés féministes ou féminins voulant écraser l'homme, vous n'avancez pas. Mais si les femmes se réunissent et disent entre elles « Où est le masculin à l'intérieur de moi ?» et comment puis-je le développer, et que les hommes se disent « Où est le féminin à l'intérieur de moi ?» et comment puis-je développer ceci ? Alors, nous vous dirons, vous aurez du succès, parce que c'est là que vous êtes rendu au niveau de l'évolution, de la race dans laquelle vous êtes, de cette conscience. Dans les millénaires passés, les femmes ne pouvaient pas se défendre, et les hommes ne pouvaient pas changer leur comportement parce que c'est là qu'ils étaient rendus au niveau évolutif. Un enfant qui a 6 ans n'est pas un adulte et ne peut pas prendre des décisions semblables à celles que l'adulte prend parce qu'il est un enfant. Mais lorsqu'il sera grand, il aura un jugement différent. Il en est de même au niveau de l'évolution de l'être humain. Alors vous n'avez pas à condamner les hommes ou condamner les femmes, mais vous avez bien plutôt à élargir si bien et tant votre conscience que vous puissiez prendre conscience de ces deux forces vous habitant à l'intérieur de vous. Alors vous sortirez de la dépendance, vous sortirez de l'attente, vous sortirez du jugement et vous pourrez ensuite venir vous installer confortablement au niveau du chakra du cœur. Comprenez-vous? Et c'est ceci dans le siècle présent qui fait partie de l'évolution et de l'élargissement de la conscience. L'élargissement de la conscience n'est pas uniquement une expression dont vous devez vous gargariser, mais c'est une réalité que l'homme devient plus intuitif. Ce soir, il y a des hommes présents dans cette salle. Il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu d'hommes. Il y aurait eu des hommes à la force pour empêcher les femmes d'entrer. Et ce soir, il y a des hommes et il y a des femmes dans cette salle qui ont une énergie yang beaucoup plus forte que certains hommes. Alors, il faut sortir de cette dualité. Il faut comprendre que l'évolution a créé la dualité, mais que l'évolution va créer l'unité, et que c'est dans ce mouvement d'unité que vous devez vous acheminer. Et cette unité, si vous voulez qu'elle se fasse entre les hommes et les femmes, il faut d'abord qu'elle se fasse à l'intérieur de chaque individu.
J'ai toujours un certain blocage à tomber amoureuse d'un homme qui a déjà été marié et qui l'est, ou a eu des parents, ou a eu des enfants, car à mes yeux, il restera toujours marié. Peut-on être heureuse et envisager une vie de couple ainsi? S'il vous plaît, éclairez-moi.
D'abord, nous avons dit précédemment que le mariage n'a pas été inventé par le Dieu Père-Mère. Il a été inventé par les humains afin de fermer les structures. Autrefois, lorsque les hommes et les femmes étaient réunis, les peuples vivaient ensemble, les femmes avaient des enfants, et les hommes et les femmes et les enfants appartenaient au peuple. Il y avait un seul peuple. Ensuite, ce peuple s'est subdivisé en familles, et pour pouvoir cristalliser un peu ces familles, nous vous dirons, les églises ont créé des normes et des lois. Et parmi ces normes et ces lois, ils ont créé la loi du mariage. Mais cette loi du mariage, elle n'est pas issue de la création. Elle est issue de la pensée et du désir de l'homme. Aujourd'hui, nous vous dirons qu'il y a beaucoup de gens qui ne restent pas dans cette structure précisément parce que cette structure va progressivement disparaître pour donner lieu à une race très différente que vous ne pouvez même pas intuitionner présentement. Pour ce qui est de répondre plus précisément à votre question, et nous voyons que ce sont les dames qui posent les questions, pour répondre à votre question, vous n'êtes pas attiré uniquement par les hommes mariés. Nous vous dirons que dans votre société actuelle québécoise, il y a plus de 60% des hommes et des femmes ayant contracté le mariage qui sont séparés. Alors, il n'est pas étonnant que sur 6 personnes sur 10, vous tombiez sur des personnes qui ont déjà contracté le mariage. Ceci est presque un fait régulier. Alors, ne vous jugez point de ceci. Ensuite, nous vous dirons que si vous voulez contracter une union avec quelqu'un et que cette union vous conduise dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la communication, il faut d'abord que vous ayez établi cette paix, cette joie, cette sérénité à l'intérieur de vous. Nous ne cesserons pas de vous dire que le problème n'est pas à l'extérieur de vous, ni dans les hommes, ni dans les femmes que vous rencontrez, mais qu'il est toujours à l'intérieur de votre propre division.
En rapport à ce que l'on vit présentement, soit plusieurs brisures de couple, alors est-il absolument nécessaire de vivre plusieurs expériences ou se dirige-t-on vers la vie androgyne?
Certainement. Et nous remercions la personne qui a posé cette question. Autrefois, lorsque les gens étaient dans une énergie évolutive plus dense, car actuellement sur le plan terrestre, l'énergie, nous dirions depuis à peu près les années 1960-1964, a commencé sur le plan terrestre une forme, nous dirons, d'infusion d'énergie plus subtile venant des hiérarchies supérieures. Car les hiérarchies supérieures sont responsables des plans et des plans solaires, c'est-à-dire des différents systèmes solaires. Alors, il y a des êtres appartenant à une hiérarchie supérieure et travaillant directement pour le Père-Mère qui ont injecté sur le plan terrestre des énergies nouvelles, sachant que vous approchez de ce que nous avons appelé l'état apocalyptique qui va vous conduire ensuite dans un état d'ascension ou d'évolution, et non point dans l'évolution qui descend dans l'énergie plus lourde. Alors, parce que l'évolution est plus grande, parce que également l'énergie est plus subtile, c'est que les êtres humains ont une capacité plus rapide de régler les aspects karmiques qu'ils avaient créés dans les vies antérieures. Car sachez bien que ce que vous avez semé dans les autres vies, vous les récoltez dans la vie présente. Alors, il est bien entendu qu'il faut que vous compreniez que tout ce que vous appelez des brisures, nous n'appelons point ceci des brisures, nous appelons même ceci des formes de continuité, c'est-à-dire que l'être croise un individu avec qui elle a à régler des aspects karmiques. Très souvent, le père, la mère, les frères, les sœurs et le premier conjoint. Parfois, d'autres conjoints subséquents, si la personne n'a pas réglé ses propres problèmes et compris ses aspects. Mais si la personne a vécu et épuisé avec cette personne tous les aspects karmiques qu'elle avait à faire, il est important que chacun choisisse son chemin pour aller régler d'autres aspects karmiques pour pouvoir se débarrasser rapidement de tous ces états karmiques et briser cette chaîne et avancer dans le chemin nouveau qui est un chemin d'évolution. Peut-être tout ce langage vient-il un peu bouleverser toutes les structures dans lesquelles vous vous êtes depuis très longtemps habitué à vivre. Mais nous vous dirons que dans les énergies futures, vous ne pourrez pas rester dans ces structures étouffantes. La seule structure qui existera, ce sera la structure de votre forme pensée vous amenant dans votre propre unité intérieure. Et à cette question, est-ce que vous vous acheminez vers l'androgynie? Exactement. Dieu est androgyne, c'est-à-dire que Dieu est créateur et est dans son potentiel totalement créateur. Il n'a pas besoin d'une source extérieure pour créer. Et alors, c'est vers ceci que vous allez. Il y a sur le plan terrestre plusieurs catégories de gens. Il y a des êtres qui ne sont pas encore sortis de l'énergie de la troisième ou quatrième race, alors qu'il y en a qui sont très avancés dans le cheminement de la cinquième race et s'acheminent vers la sixième race. Il y a par exemple des êtres qui sont comme au niveau de la conscience dans un état de sommeil. Il y en a d'autres qui sont dans un état uniquement émotif, comme les pays qui sont toujours dans la guerre et qui ne vivent que de la guerre depuis des années et des années. Il y a également des disciples qui commencent à sortir de ce monde des émotions et de ce monde du mental écrasant. Il y a après les disciples des initiés. Et dans cette pièce ici ce soir, il y a plusieurs personnes qui avancent dans le chemin de l'initiation. Et il y a de plus des maîtres. Les maîtres sont ceux qui, rendus à la limite du chemin des initiés, sont passés à travers l'épreuve fondamentale, qui est d'apprendre le détachement de l'émotion, le détachement du mental intérieur et le détachement du corps physique. Non point qu'il nie le corps physique, qu'il nie les émotions et qu'il nie le mental, mais bien qu'il prenne ses énergies, les transcende et les font monter dans les autres centrales énergétiques afin de pouvoir avancer, nous dirions, dans un chemin plus éclairé. Et il y a dans cette salle des maîtres. Alors les maîtres avancent vers le chemin de l'androgynie.
Est-ce que la sexualité est une trappe dans la communication homme-femme?
Nous vous dirons la sexualité, comme tout ce qui a existé, comme le pouvoir de l'homme, fait partie du plan divin, et le plan divin est parfait. Tout est parfait. Ce qui est imparfait, c'est votre regard, et non point Dieu. Dieu a créé tout parfaitement. Et la sexualité devait être, nous dirions, un élément important. C'est comme un cadeau, nous dirons, très noble que Dieu a donné à la race humaine. C'est comme un instrument parfait que Dieu a donné à l'homme et à la femme pour que, pouvant se servir de miroir l'un l'autre, un jour, ils arrivent à comprendre que l'autre qui est placé devant eux n'est qu'un miroir pour les retourner à eux-mêmes et enfin les acheminer dans le chemin de l'androgynie. Là où la sexualité est une trappe, c'est lorsque elle est exploitée, nous dirons, par des gens qui gagnent à exploiter ceci. Nous dirons, tous ces formes de pornographie et nous dirons ne sont pas mal en soi puisqu'elles sont expérimentations. Lorsque nous vous donnons un petit exemple qui va vous aider à comprendre. Imaginez que vous êtes un enfant très pauvre, que chaque jour vous allez à l'école, mais que votre mère ne peut pas vous donner autre chose qu'un morceau de pain et un petit cruchon d'eau. Mais que chaque fois que vous allez à cette école, vous passez devant une pâtisserie où il y a de bons gâteaux et des chocolats. Vous désirez manger ceci et vous avez raison puisque ceci est bon. Et que plus tard, un jour, vous allez chez le marchand et vous lui dites, est-ce que je pourrais venir travailler chez vous? Et il vous accepte et il vous dit même dans le contrat, tu peux manger des chocolats et des gâteaux autant que tu le désires. Ce que fera l'enfant, c'est qu'il en mangera jusqu'à ce qu'il fasse une indigestion. Mais viendra un moment où il comprendra qu'il y a des temps pour les manger et qu'il y a des temps pour s'en abstraire. Nous vous dirons, ceux qui ont trouvé à l'intérieur d'eux-mêmes l'unité, qui ont fait l'unité de leur énergie féminine et masculine, peuvent très facilement utiliser la sexualité sans se perdre dans toutes ces notions de, nous dirons, d'attachement ou de séduction ou, vous savez, d'esclavage. Là où la sexualité vient vous nuire, c'est lorsqu'elle vous rend esclave. Mais la sexualité peut vous acheminer progressivement vers la libération, car cette énergie sexuelle est une énergie très forte et très puissante qui peut vous permettre d'utiliser cette voie de la Kundalini ou cette énergie de la Kundalini pour finalement monter cette énergie dans les autres chakras pour la bien, nous dirons, distribuer et vous permettre progressivement d'évoluer vers, nous dirons, des plans supérieurs et plus évolués. Et nous vous dirons que lorsque vous aurez atteint la septième race, vous n'aurez plus besoin de la sexualité pour vous exprimer, car vous pourrez, par le seul pouvoir de votre pensée, utiliser à tout moment l'énergie de la Kundalini. Mais vous ne devez pas brûler les étapes. Vous ne devez pas condamner la sexualité, pas plus que vous ne devez condamner le pouvoir que les hommes ont exercé sur les femmes. Ceci était, nous dirons, toutes les démarches que vous aviez à traverser, toutes les expérimentations que vous aviez à faire pour pouvoir finalement accéder à un niveau de conscience plus élevé.
Quels sont les moyens pour communiquer avec un conjoint?
Dire à son conjoint qui on est. Ne pas demander au conjoint d'être ce que vous êtes. Ne pas demander au conjoint de vouloir ce que vous voulez. Ne pas demander au conjoint de répondre à vos besoins, car il n'est pas là pour répondre à vos besoins. La seule personne qui est là, pour répondre à ses besoins, c'est vous-même. Alors, pour communiquer avec le conjoint, il faut le considérer comme un miroir qui vous renvoie une partie, nous dirons, du reflet, du vide qui est à l'intérieur de vous. Et si vous avez des conflits avec le conjoint, dites-vous bien que l'énergie de ces conflits vous appartient à vous-même. Il est le reflet d'une partie de vous que vous n'aimez pas, ou d'une partie de vous que vous jugez, ou d'une partie de vous que vous rejetez. Pour communiquer bien avec le conjoint, il faut d'abord que vous appreniez à dire qui vous êtes, à nommer vos émotions, à développer le chakra de la gorge afin de pouvoir exprimer qui vous êtes, en sachant que l'autre n'est pas là pour répondre à vos besoins. Là où il y a des difficultés dans les couples, c'est lorsqu'il y a la dépendance dans l'attente que l'autre va répondre à vos besoins. Il n'est pas là pour ceci. Il est là pour vous donner le reflet de votre vide.
Et lorsque cette communication-là, elle est comme fermée, qu'est-ce qu'on a à faire?
Dans sa grande sagesse, le Père a créé autant de chemins qu'il y a d'êtres humains, de milliards d'êtres humains qui sont passés sur le plan terrestre. Jamais deux êtres humains n'emprunteront le même chemin. Alors, ce que vous avez à choisir, c'est vous-même, c'est votre chemin. Nous ne disons pas de faire ceci en condamnant l'autre ou en le jugeant ou en disant que c'est de sa faute parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il fréquente d'autres femmes. Nous vous dirons, vous n'avez pas à juger l'autre. L'autre a un chemin. Et ce chemin, il l'a choisi avant son incarnation. Chaque être humain sur le plan terrestre, avant, nous parlons des êtres humains évolués, car ceux qui ne sont pas évolués n'ont pas le choix de leur incarnation. Ils doivent se soumettre au maître du karma. Mais les êtres plus évolués, comme vous qui êtes dans cette pièce, et nous dirons vous qui êtes dans cette Amérique, nous dirons vous avez choisi avant votre incarnation qui serait votre père, qui serait votre mère, qui seraient vos frères, vos sœurs, dans quel pays vous seriez, quel type de corps physique vous alliez choisir, si vous seriez petit, grand, ou gros, ou maigre. Vous avez choisi tout ceci, vous avez choisi tout ce scénario, et vous avez signé ce contrat en disant, je vais appliquer sur cette fonction, sur le plan terrestre, afin de me libérer de mes aspects karmiques, et de pouvoir évoluer encore de plusieurs plans dans cette incarnation nouvelle. Alors, lorsque vous marchez près de quelqu'un et que cette personne ferme son énergie à la vôtre, tournez-vous vers vous-même et prenez la décision de vous choisir.
Une femme dit « Je suis seule, sans amis réguliers, donc sans sexualité. Je rencontre souvent des hommes que j'aime beaucoup, mais d'une franche amitié. Eux désirent plus la sexualité. Ils ne me comprennent pas. En me disant que la sexualité est aussi nécessaire que de boire et de manger. S'il vous plaît, votre opinion.
D'abord, nous vous dirons que pour quelques-uns, elle est aussi nécessaire que boire et de manger. Pour d'autres, elle n'est pas nécessaire. C'est plutôt le domaine affectif ou le domaine au niveau de l'âme qui est plus nécessaire. Alors chaque être a son chemin. Nous vous dirons, d'abord lorsque vous parlez de sexualité, dites-vous bien que la sexualité n'est pas uniquement la génitalité. Lorsque, par exemple, vous êtes assis chez vous et que tout à coup vous avez une intuition et que vous donnez suite à cette intuition c'est un geste sexuel, puisque c'est l'énergie primordiale qui vous fait agir. Tout est sexualité. Nous vous dirons tout ce que vous faites, votre manière de faire votre lit, votre manière, nous dirons, d'aller faire votre épicerie. Vous le faites parce que vous êtes davantage féminine ou davantage masculine. Alors, tout est sexualité. Vous devez, nous pensons bien, parler de génitalité. Alors, bien sûr, pour certaines personnes, la génitalité est davantage nécessaire, car chaque être humain, lorsqu'il s'incarne, il vient travailler un, deux, habituellement à peu près deux chakras de façon plus pertinente. Certaines personnes viendront travailler le chakra du plexus solaire et celui du troisième œil. Alors, bien sûr, ils devront travailler beaucoup à ce niveau qui est le lieu de l'ancien cerveau, le lieu où se maintient aussi le mental inférieur et le lieu où se maintiennent les colères, les jalousies, les culpabilités. Alors, ils vivront toutes sortes de situations les amenant à devoir travailler sur ce centre énergétique. D'autres, par exemple, accorderont plus d'importance au développement de toute la question psychique parce qu'ils sont venus travailler l'aspect de leur troisième œil. Mais d'autres êtres humains sont venus travailler les deux chakras de la base. Alors, ils doivent, nous vous dirons, expérimenter davantage toute la question de la génitalité pour pouvoir, à un moment donné, dépasser ce plan et aller dans d'autres plans. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais vous comparer les uns aux autres. La femme qui est seule, elle est de plus en plus nombreuse. L'homme qui est seul, il est de plus en plus nombreux. Et cette solitude, dites-vous bien, qu'elle est utile également dans l'évolution du plan terrestre. Car lorsque vous êtes seul, vous avez le devoir ou vous n'avez pas le choix, si nous employons la négative, de vous tourner vers vous-même et de vous regarder tel que vous êtes et de vous poser la question fondamentale de qui vous êtes.
Comment une relation amoureuse homme-femme vécue avec un ardent désir peut être un outil d'évolution des deux êtres?
Nous vous dirons, le désir, c'est ce qui crée l'attrait entre deux êtres humains. S'il n'y avait pas de désir, les êtres humains ne s'accoupleraient jamais. Ils ne viendraient pas ensemble. Imaginez que vous croisez sur le chemin, nous vous dirons, un animal nouveau que vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous avez le désir d'entrer en communication pour créer un couple avec lui? Non, point. Mais si vous avez le désir par rapport à un homme ou par rapport à une femme, nous vous dirons, vous êtes dans un premier palier de communication. Ensuite, ce désir, il va vous rapprocher, vous permettre d'expérimenter à travers le corps physique, à travers l'émotion, à travers l'échange intellectuel, puis progressivement, ceci va évoluer encore vers d'autres plans. Et le désir va devenir moins fréquent. Vous allez moins désirer la personne parce que vous allez être appelé à ce moment, dans la connaissance plus intime de cette personne, à faire la vérité sur des éléments de vous-même que vous ne regardez pas nécessairement si vous êtes un peu noyé dans l'état du désir. Observez bien, par exemple, un jeune garçon et une jeune fille qui se connaissent pour la première fois. Ils n'ont qu'un désir, ceux de se baiser, de se toucher, de poser les gestes génitaux, et ils sont obsédés dans leur pensée par la présence de l'autre. Ils se lèvent en pensant à l'autre, ils se couchent en pensant à l'autre, ils mangent en pensant à l'autre, et souvent, ils s'oublient eux-mêmes. Ils ont l'impression d'aimer, mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que ceci n'est qu'une projection de l'amour qu'ils désirent se donner à eux-mêmes. Mais ils vont avancer ensemble et ensuite faire des projets de d'autres types. Leur obsession va changer de palier. Alors ils vont entrer dans le domaine des responsabilités, ils vont avoir des enfants, construire une maison, avoir les voitures, des emplois, et alors ils vont jouer des rôles sociaux. Bien sûr, ils vont à nouveau se caresser, mais ils ne seront pas toujours l'un dans la fusion avec l'autre. Et ensuite, à mesure qu'ils vont évoluer et qu'ils auront répondu à ces responsabilités, ils devront se poser d'autres questions qui sont plus vitales et qui viennent toucher l'essence de l'être. Sans quoi, s'ils n'arrivent pas à ceci, nous vous dirons, la première partie de l'expérimentation va s'arrêter à ce niveau et ils iront chercher ailleurs. Pour trouver, nous dirons, ce contact différent, ce contact se situant à un autre niveau. Et c'est pourquoi actuellement il y a autant de personnes qui vivent seules. C'est qu'ils recherchent un contact qui ne soit pas uniquement un contact d'adolescent, mais bien un contact au niveau de l'âme. Et plus vous allez évoluer et avancer dans le chemin spirituel, plus vous allez être difficile dans le choix de vos relations, car vous ne pourrez plus vous contenter du seul aspect physique. Et l'aspect physique était placé le premier comme un attrait pour vous amener plus loin jusque dans l'âme. Mais si vous restez au niveau physique, vous prenez des risques de ne pas franchir tous ces paliers.
Il y a deux questions qui s'apparentent ici. Quel est le truc, ou encore, quelle est la valeur essentielle qu'un couple doit posséder pour réussir à passer en harmonie toutes les épreuves et embûches de leur vie?
Se choisir chacun individuellement et devenir totalement leur propre individualité. Alors, ils auront entre eux ce que nous appelons l'énergie du 8, qui a été beaucoup développée par les Kaunas qui connaissaient bien cette énergie. Et nous vous dirons, l'énergie du 8 est l'énergie de deux entités devenues complètement autonomes, ayant créé l'unité entre leur polarité à l'intérieur d'eux-mêmes et pouvant ensuite se rencontrer dans un contact pour l'échange au niveau du cœur et ensuite repartir chacun pour faire ce qu'ils ont à faire et créer ce qu'ils ont à créer et ensuite revenir. Et nous vous dirons que les âmes qui ont acquis cette maîtrise ne se perdront jamais de siècle en siècle. Et c'est là que vous vous acheminez lentement comme peuple humain. Nous ne disons pas que tous ceux qui sont actuellement sur le plan terrestre s'acheminent vers ce sentier, car beaucoup n'ont pas terminé avec les vibrations anciennes, vibrations de guerre et de haine et de division.
J'ai une dernière question ici que vous avez déjà répondu en partie. Si vous avez d'autres choses à compléter, ce serait apprécié. Y a-t-il une réelle différence fondamentale entre l'homme et la femme, à part le sexe?
Il n'y a pas de différence. Nous vous dirons, même le sexe, si vous le voyez très bien, et même dans sa projection du futur, vous verriez qu'il n'est pas différent. Avec le clitoris, la femme possède déjà un pénis. Et la femme, aujourd'hui, qui n'a pas de pénis, en a déjà possédé un précédemment. Et l'homme qui n'a pas de vagin apparent en a déjà eu un dans d'autres vies. Alors, nous vous dirons, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Dans la pensée de Dieu, cette division homme-femme, cette division pénis-clitoris, cette division, nous dirons, de mère ou père, cette division d'enfant-parent, toutes ces divisions ont été créées par l'humain, et l'humain commence à comprendre qu'il ne veut plus vivre dans la division. Et c'est pourquoi lorsqu'une relation devient inconfortable, vous n'y restez pas. Et Christ disait dans l'Évangile, lorsque tu as traversé un sentier et que tu ne reçois pas l'accueil dans ce sentier, secoue tes sandales et va vers un autre sentier. Il n'y a pas, si chaque individu arrivait à véritablement contacter l'énergie Dieu, puisque vous êtes ce Dieu que vous adorez à l'extérieur de vous, mais que chacun arrivait à contacter cette énergie Dieu qu'il possède à l'intérieur de lui-même, il verrait que ce Dieu est sans division et que la division est une illusion. Illusion créée par l'homme pour son expérimentation, car pour pouvoir, nous dirons, être dans l'unité, il faut bien savoir ce que veut dire la division. Alors vous n'avez point à vous juger, vous n'avez qu'à avancer et à progresser sur ce chemin de votre unité personnelle. Ceci ne veut pas dire que chacun de vous ce soir devait retourner et dire « Moi, je quitte le conjoint et je m'en vais vivre dans un autre lieu. Ceci est plus parfait d'être seul au sommet de la montagne. » Non point, vous avez besoin des miroirs autour de vous. Vous avez besoin d'achever ces karmas. Vous avez besoin de vous libérer de toutes ces divisions. Alors vous avez besoin de ceux qui sont en face de vous pour pouvoir évoluer. Et nous vous dirons, même si l'homme qui a atteint le degré de la sagesse et qui est devenu un maître avance seul dans son chemin vers le sommet de la montagne, nous vous dirons qu'il a encore besoin des autres pour lui refléter sa propre énergie. Comme Dieu a fait la création pour se refléter à lui-même, nous dirons cette espèce de mouvement de retour ou mouvement d'ascension ou d'évolution. Nous sommes heureux que ceci était la dernière question, parce que nous allions dire que nous allions quitter la forme, nous avons déjà beaucoup demandé d'énergie. Nous voulons vous dire, chères dames et chers messieurs, de ne pas créer de division à l'intérieur, à l'extérieur de vous, de cesser toutes ces guerres entre le féminin et le masculin, entre les femmes qui ne comprennent pas les hommes et les hommes qui ne comprennent pas les femmes. Et dites-vous que chaque fois que vous critiquez la partie adverse, vous êtes en train de critiquer une partie de vous-même que vous n'avez pas encore découverte. Et si chaque humain pouvait arriver à comprendre ceci, et il y en a de plus en plus qui le comprennent, nous vous dirons le chemin de retour vers cette énergie Dieu et vers cette terre-mère se ferait très rapidement. Car vous avez du pouvoir par votre pensée que la terre se transforme. Vous avez toujours appelé la terre une mère nourricière, mais nous vous dirons que la terre elle-même est à la fois yin et yang. Elle est à la fois celle qui porte et celle qui engendre. Alors nous vous disons, ne voyez plus la division, voyez l'unité, et la transformation se fera sur votre plan terrestre. Nous avons donné beaucoup d'enseignements, nous n'avons pas beaucoup entendu rire, et nous vous dirons que si vous voulez vous acheminer vers cet état d'androgynie, vous devez apprendre à rire de vos faiblesses. Vous devez apprendre à rire un peu de ces divisions lorsque vous les constatez. Au lieu de vous juger, apprenez à rire un peu de vous. Vous savez, si vous allez dans votre miroir et que vous faites un peu la grimace, vous aurez envie de rire. Mais si vous êtes là bien sérieux, vous allez sortir de la pièce en ayant une idée de sévérité et une idée amère. Il en est ainsi avec le conjoint. Il est important que vous preniez le temps de rire de vos, nous dirons, de vos petites querelles ou de vos incompréhensions ou de vos divisions intérieures. Mais nous le répétons, si vous n'êtes pas confortable dans une relation, il est important que vous appreniez à vous choisir vous-même. Le seul chemin de retour, c'est vous-même. Il n'y en a pas d'autre. Ne les cherchez pas à l'extérieur. Ils sont au-dedans de vous. Christ vous a dit ceci lorsqu'il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Ensuite, il a dit « Ce royaume est au-dedans de vous. » Ensuite, il a dit « Si vous voulez entrer dans ce royaume, vous devez devenir comme des petits-enfants. » Les petits-enfants ne sont pas sérieux. Ils savent rire. Ils savent faire la bonhomie. Alors devenez ces enfants qui trouvent le royaume qui est à l'intérieur d'eux, sachant que ce royaume, lorsque vous l'aurez trouvé, vous donnera tous les bonheurs, toutes les richesses. Il vous donnera la paix. Il vous donnera le bien-être. Il vous donnera la justice. Il vous donnera l'abondance. Il vous donnera exactement tout ce que vous, dont vous avez besoin, car dites-vous bien que le cœur de Dieu est généreux et que ce cœur de Dieu généreux, il vous habite. Il faut que vous le retrouviez pour sortir de cette division et de cette dualité. Avant de vous quitter, nous allons vous couvrir du grand manteau de cette énergie christique qui actuellement plane au-dessus du plan terrestre. Parce que vous êtes dans un moment crucial et plus difficile où il y a des tournants importants, des énergies un peu bousculantes, où vous vous sentez, nous vous dirons, comme forcé d'évoluer. Vous n'avez pas le choix, le temps presse, car vous approchez de ce temps apocalyptique où vous aurez des épreuves plus importantes à subir. Et ensuite, vous vous acheminerez sur ce chemin de retour vers votre intérieur. Alors, commencez aujourd'hui, lorsque les événements plus difficiles viendront. Déjà, vous aurez trouvé la demeure où vous cachez. Et cette demeure, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que cette énergie christique vient faire sur le plan terrestre. Depuis 2000 ans déjà que Christ était venu répandre en abondance son énergie sur le plan, afin d'éveiller la conscience des êtres humains. Mais voici que dans les temps présents, dans ces temps que vous appelez l'âge d'or ou l'âge du Verseau, voici que cette énergie est encore plus importante et plus subtile et plus pénétrante de vos énergies. Accueillez cette énergie. Demandez que cette unité se fasse à l'intérieur de vous. Ayez cette unité dans votre pensée. Et comme votre pensée est créatrice, vous créerez cette unité pour vous et par ricochet pour vos frères humains. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous souhaitons d'être joyeux, d'être dans la paix, d'être dans l'harmonie. Nous vous souhaitons la paix sur cette terre qui désire profondément la paix, car nous vous dirons, la terre est à elle-même une entité tout entière, et elle tend les bras vers vous, afin que vous fassiez chacun cette unité pour qu'elle retrouve elle-même son unité de terre. Nous vous aimons, nous vous remercions d'avoir été présents à cet enseignement, et nous vous dirons, allez répandre par votre propre conscience, cette lumière sur le plan terrestre. Que paix, lumière et sagesse soient avec vous à jamais. Amen. Nous devons maintenant quitter la forme.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Seigneur, protège toutes les entités présentes, peu importe la source. Et que les guides se joignent à nous afin que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Amen.
S'il vous plaît, commencez toute guérison qui s'avère nécessaire maintenant à tous les niveaux de l'être.
Merci.
S'il vous plaît, permettez à la pression sanguine et à toutes les autres fonctions du système physiologique qui ont été ralenties de revenir à la normale d'une manière naturelle et continue, maintenant. J'aimerais que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré. Maintenant.